Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en compagnie de Jonathan Gringer. Jonathan, merci d'avoir accepté cette invitation.
Oui, merci Jonathan.
Merci pour l'invitation et bonjour.
Ça nous fait très plaisir de te recevoir dans le cadre de ces entretiens ILCB Fédération 3C, le troisième épisode. Donc Jonathan, en quelques dates, tu as obtenu une licence de psychologie de l'université de Manchester, c'était dans les années 70, fin des années 70. Et par la suite, tu as repris des études à Paris, donc en 79, tout en travaillant en tant que professeur d'anglais. Tu as obtenu ton doctorat de psychologie en psychologie expérimentale à Paris 5 en 1986. Et tu as par la suite effectué un stage postdoctoral à l'Institute for Perception Research à Eindhoven, aux Pays-Bas, avec une bourse Fisen. Et tu as obtenu ton poste au CNRS en 1988 pour rejoindre le laboratoire de psychologie expérimentale à Paris. Alors tu y es resté quelques années avant de rejoindre le centre de recherche en psychologie cognitive, le CREPCO, en 1994 à Aix-en-Provence. Et avec la dissolution du CREPCO en 1999, tu t'es lancé dans l'aventure du LPC. Donc tu as été fondateur du laboratoire de psychologie cognitive et directeur de cette unité de 2000 à 2012. Et en tant que directeur du LPC, tu as bien évidemment contribué à la création du pôle 3C, ici à Saint-Charles. Ensuite, tu as obtenu la médaille d'argent du CNRS en 2011, le Sir Frederick Bartlett Prize en 2016. Tu as été également président de l'ESCOP de 2014 à 2016, donc la Société Européenne de Psychologie Cognitive. Et tu as obtenu une bourse ERC en 2009, et tu as obtenu une bourse ERC en 2017. Alors on aura peut-être l'occasion de revenir sur ces...
Sur ce fait très rare.
Voilà, sur ce fait assez exceptionnel. Et dans la deuxième partie, et puis aussi, si tu veux bien nous présenter un petit peu les tenants et les aboutissants de ces différents projets, et voir comment, si ces projets sont liés aussi, quelles ont été les avancées que tu as pu obtenir grâce à ces bourses ERC. Dans un premier temps, ce qu'on souhaitait avec Mireille, c'est que tu nous dises comment tu en es venu à la psycholinguistique et les principales étapes en fait, de développement de cette thématique, de ton parcours, et que tu nous dises un petit peu aussi quelles sont les personnes, les rencontres que tu as pu faire qui ont joué un rôle important dans le développement de ta carrière.
Très bien. Ben, pour moi, ça a commencé au lycée en fait. Et j'étais assez bon en mathématiques, mais j'aimais beaucoup la philosophie. Je n'étais pas enseigné, mais je m'intéressais de titre personnel à la philosophie. Et mon professeur de maths, lorsqu'on devait faire des choix d'orientation pour l'université, m'a conseillé de faire de la psycho. Donc ça a commencé avec ça. Et il m'a donné à lire le livre de George Miller, The Science of Mental Life. Et j'ai lu ça, j'ai dit ça, c'est incroyable, c'est une telle puissance. Je connaissais parce que la psycho n'était pas enseignée au lycée. Et donc j'ai choisi la psychologie pour faire une licence de psychologie à l'Université de Manchester, comme tu avais dit. Et donc ça, c'était le premier point important. Donc un prof de lycée, génial, que j'aimais beaucoup. Et donc ça compte énormément, c'est incroyable. Et donc après, donc j'ai commencé la licence de psychologie à Manchester. Et là, effectivement, je n'étais pas déçu. Tout de suite, on avait le livre, un autre livre incroyable, c'est Lindsay and Norman, Human Information Processing. Moi, ça m'a ouvert les yeux vers... C'est encore plus loin que George Miller. C'est vraiment le traitement de l'information. Et donc, comme base de tout ce qui est la psychologie cognitive expérimentale. Et il faut savoir, à l'époque, en Grande-Bretagne, que ce soit en Manchester, c'est en Angleterre. Moi, je suis écossais, mais j'étais à Manchester. Peu importe. C'était vraiment la psychologie expérimentale pure et dure qui était enseignée dès la première année. Pas de psychanalyse, rien de psychanalyse. On ne mentionnait même pas le mot psychanalyse ou Freud ou autre. Donc tout de suite, première année, comment monter une manip? Une question, comment monter une manip? Et on faisait ça chaque semaine. Et c'était une formation incroyable. incroyable. Et ça a donné envie, ça montrait la puissance de cette science et comment on pouvait appliquer des méthodes simples, efficaces pour répondre à des questions, si on avait des bonnes questions au départ. Et donc j'étais absolument pas déçu, j'ai beaucoup aimé, même si à cause de mes intérêts philosophiques en licence, j'avais terminé avec un mémoire sur les effets de la méditation chez les moines bouddhistes.
Ah oui.
Sans, ouais, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, ouais, tout était possible. Donc, et après c'est, donc en arrivant à Paris, j'ai repris mes études. Et le fait que donc, j'étais professeur d'anglais, j'étais apprenant de la langue française. Donc je parlais à peu près le français, mais il fallait vraiment apprendre à parler correctement. Et c'est ça qui m'a orienté vers le langage. Vraiment, c'était essentiel. Et j'ai fait ma thèse sur le bilinguisme.
Et c'était vraiment le fait que toi, tu sois venu en France avec finalement des rudiments de français et qui t'a amené à te poser ces questions.
Absolument.
Sur l'apprentissage de la langue.
Absolument, absolument. Ouais. Et puis des questions sur quand on passe de l'état monolingue à l'état quasiment bilingue, c'est des choses différentes. On a deux façons de voir le monde, quasiment. Donc ça ouvre plein de questions sur comment le cerveau gère ça, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Et donc,
mais alors, comment se fait-il qu'un Écossais soit allé étudier en Angleterre et ensuite en France?
D'abord,
un concours de circonstances
en Angleterre, j'aurais pu aller... en fait, c'est parce que mes parents, ils ont déménagé en Angleterre. Donc, je voulais pas être trop loin, donc voilà, c'était ça. Mais j'aurais pu aller en Écosse, effectivement. C'était après là, ouais, non, la France, c'était une histoire purement personnelle. C'est que c'était la tradition après la licence en Grande-Bretagne de prendre, on pouvait prendre une année sabbatique quelque part, se préparer avant de se lancer vraiment dans une carrière où on faisait une maîtrise en psychologie clinique, psycho du travail, etc. Là où ça devenait sérieux, là on pouvait prendre... Donc c'était acceptable de partir, donc je dis, allez, je vais partir. Je suis parti en France, je suis resté.
Ah.
Mais je connaissais déjà la France.
Oui.
J'étais déjà amoureux de la France et du peuple français.
Formidable.
Donc non, je savais que j'avais envie de... d'y être. J'ai eu la chance de pouvoir gagner ma vie en tant que professeur d'anglais. C'était une époque où c'était assez facile, en fait, de bosser comme ça. Donc j'ai fait ça et j'ai repris. Donc ça fait que j'ai perdu quelques années, 2-3 ans, en faisant que l'enseignement de l'anglais. Et après, j'ai repris des études.
Ouais, ça ne s'est pas fait de manière simultanée,
non.
C'est que tu as commencé déjà à travailler en tant qu'enseignant.
Absolument. Après, ouais. Ouais, c'est-à-dire que je ne me voyais pas faire l'enseignement de l'anglais toute ma vie, donc et j'avais envie de reprendre des études de psychologie. Voilà.
Donc tu nous as parlé de ton prof qui t'a conseillé de faire psycho.
Ouais.
Ça a été une personne qui a joué un rôle déterminant dans ta carrière. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont joué un rôle important?
Oui. Après, une fois, il y a beaucoup de personnes parce que je suis passé par l'université de Nanterre. Il y avait des gens très bien là, mais vraiment, la personne qui m'a vraiment le plus influencé par la suite, c'est mon directeur de thèse, Juan Seguí. Juan Seguí, qui était quelqu'un d'exceptionnel, que j'ai trouvé par hasard. J'ai rencontré Juan parce que je voulais quitter Nanterre et faire une thèse avec quelqu'un. J'ai commencé à regarder un petit peu à Paris les personnes qui avaient une certaine notoriété en psycholinguistique. Et je suis tombé sur les gens comme François Bresson, Jacques Meller et Georges Noiset. Et ni Meller ni Bresson étaient là au moment où je voulais les voir. Donc j'étais voir Georges Noisy, c'était l'année avant sa mort. Et Noisy m'a dit, ah, allez voir Segui. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Georges Noisy, bien sûr, c'est un personnage. Donc c'est celui qui dirigeait le labo d'Aix.
Mais donc tu l'as rencontré à Aix ou à Paris?
À Paris.
Ah, d'accord, parce qu'il était à Aix, en fait.
Oui, oui, mais là, il était directeur de labo de psycho-expé à Paris. Quand je l'ai rencontré, oui, il avait déjà déménagé.
D'accord.
Et donc, j'ai eu la chance de le voir juste avant sa mort, en fait.
Oui, parce que moi, je l'ai eu comme prof, Georges Noisy, tu vois, en psycho à Aix.
C'est ça, oui. Mm. Et donc, c'est lui qui m'a dit, allez voir Segui. Donc, j'étais voir Segui et... c'était le grand amour.
Formidable.
Juan Segui, c'est un être exceptionnel, c'est un scientifique exceptionnel, donc je ne pouvais pas mieux tomber. Ça. Même si lui, c'était la parole, et moi, toute ma thèse, c'était l'écrit, c'était le bilinguisme, mais c'était des expériences avec le langage, avec les mots écrits. Parce que c'était tellement plus facile de faire des expériences avec l'écrit à l'époque. La parole, c'était encore très, très compliqué. Donc, voilà. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Vraiment, au niveau départ, ce qui m'a marqué le plus. Après, évidemment, il y a les collaborations par la suite. Mais bon, ça, c'était plus tard. Mais...
Et ton postdoc aux Pays-Bas?
Oui.
Alors, comment t'es atterri, en fait, à Eindhoven?
Alors là, c'est bien de poser cette question parce que ça fait un lien avec quelqu'un qui n'a pas vraiment été un collaborateur proche, presque un ami, un type génial, c'est Kevin O'Regan. Kevin, qui était au laboratoire de psychologie expérimentale, et c'est vraiment lui qui m'a ouvert les portes vers ce postdoc à Eindhoven, où il y avait des gens qui travaillaient sur deux gens, Herman Bauma et Don Bauhaus, qui travaillaient sur le mot écrit à l'époque. Donc c'était un endroit idéal pour moi. Parce que je voulais, en fait, j'avais envie de bilinguisme, c'était bien. Maintenant, je voulais m'orienter vers des questions beaucoup plus générales sur la lecture en général. Vraiment, donc c'était le début de cette orientation où j'ai continué à travailler sur le bilinguisme pendant longtemps, et même aujourd'hui. Mais je voulais m'orienter de plus en plus vers des questions plus, pas plus générales, parce que le bilinguisme, c'est très général, mais plus sur la lecture, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lit. Qu'est-ce qui se passe dans...
À t'écouter, moi j'ai presque l'impression que tu as un rapport intime avec le livre de manière générale ou l'écrit. Parce que quand tu... Voilà, on posait la question sur les personnes, sur les rencontres, et tu nous cites deux ouvrages en introduction.
Oui. Ah, j'étais un grand lecteur, pas plus maintenant en fait, c'est drôle, mais j'ai beaucoup appris, notamment en langue française, j'ai lu beaucoup de livres, même des classiques en français, et j'ai beaucoup aimé. Oh, je ne peux pas citer, en fait moi ce que j'aimais bien c'était, c'est de manière générale la façon de pouvoir s'exprimer tellement librement par l'écrit, et que ça reste comme ça, ces traces qui restent. À l'époque, je pense que ça correspondait à peu près à mon âge, à ma mentalité à l'époque. Mais Romain Gary, par exemple, il m'a fasciné. Il m'a fasciné avec son double jeu avec Émile Ajar. J'ai adoré, mais il n'y a pas que lui. Mais... Donc, non, effectivement. Maintenant, malheureusement, je prends tellement de temps à lire des articles pour mon travail que j'ai un peu abandonné la littérature, ce qui est dommage, ouais. Dommage.
Peut-être que tu y reviendras bientôt.
J'espère. Ça, c'est pas le cas de Juan Segui, qui a toujours été quelqu'un qui a lu tous les livres de partout. en espagnol, en français, en anglais. Donc, mais bon, je vais arriver.
Si tu as vu, si tu avais eu la possibilité de rester aux Pays-Bas, tu serais resté ou tu avais vraiment envie de revenir en France?
Ça, c'est une bonne question. Oui. Moi, ça, j'avais déjà quand même les yeux. Je visais déjà le CNRS.
Tu avais déjà ça dans la tête.
Ouais. Et donc, non, mais et encore, je pense que même si je n'avais pas été recruté au CNRS, je serais resté en France. C'est vraiment comme je disais avant, c'était, j'aime la France, vraiment. C'était l'amour de ce pays, en fait. Et j'avais envie d'y vivre. Bon, Paris d'abord. Évidemment, Paris, c'est génial. Lorsqu'on a, quoi, là, c'était 25-30 ans. C'est génial. Et après, bon, j'ai découvert, bon, je connaissais déjà, mais j'ai découvert tout. La France est tellement incroyable au niveau de tous les paysages, toutes les choses qu'on peut...
Et comment s'est fait d'ailleurs ta mutation de Paris vers Aix-en-Provence?
Là, c'est... ouais, il y a deux facteurs, je pense. Le fait que ma femme, qui est parisienne, a de la famille à Aix. Et donc, elle avait des contacts, elle avait envie de venir vivre ici aussi, de quitter Paris. Avec la naissance de notre premier enfant, c'était soit quitter Paris intramuros avec un petit appartement et aller vers la banlieue parisienne, comme tous nos copains qui avaient des enfants, soit aller en Provence. Et donc, on a fait l'option. Ça tombait extrêmement bien pour moi parce que c'était l'année où le CNRS avait... décidé d'encourager les chercheurs de quitter Paris pour aller dans le laboratoire provincial. Et donc, j'ai eu une promotion DR, donc CRDR, très précoce, juste parce qu'ils voulaient...
encourager ce mouvement vers les laboratoires.
Donc, j'en ai vraiment profité. Ouais. Et il y avait ce laboratoire à Aix. Avec notamment Joël Pint, on a parlé de Joël.
Tout à fait.
Pour moi, c'était un chercheur exceptionnel aussi. Donc, ça me faisait plaisir de venir à Aix-en-Provence.
Quand tu as rejoint le CREPCO, donc c'était en 94. Donc, de ce que j'ai compris, le CREPCO disparaît en 99, c'est ça?
Oui.
Est-ce qu'il était déjà question que le laboratoire ne soit pas renouvelé ou soit recréé sous une autre forme quand tu es arrivé en 94?
Non, pas du tout. Non, ça a commencé au plus tôt, c'était 98. On commençait à se poser des questions sur la nature de la nouvelle demande. Parce que Caverny ne pouvait plus être directeur. Qui allait être directeur? Et je faisais partie de toutes ces réunions-là. Donc, en tant que directeur d'une future équipe langage, un futur labo, qui n'a pas été accepté, en fait. Donc, une demande a été posée, je pense, en 98, 99, et rejetée par le CNRS. Donc, avec Jacques Vauclair, qui était directeur de cette proposition. Et c'est après le refus par le CNRS d'accepter cette configuration de labo qui allait prendre la place du CREPCO qu'on commençait à se demander qu'est-ce qu'on allait faire. Et donc c'est là où c'est vrai que j'ai un peu sauté sur l'occasion pour, même si... Vraiment, je n'avais pas du tout de vocation à être directeur de labo. C'est loin de mes envies à cette époque-là. Mais c'était une occasion d'abord de quitter Schumann, qui était dans un état lamentable. Mmh. Mais ça, c'était plutôt Jean-Paul Caverny, d'aller vers les neurosciences, en fait, de devenir quelque part plus scientifique. Donc voilà, même si on peut discuter de ça. Voilà. Mais c'était ça. Et puis après, quand on m'a montré les locaux ici, Je dis, bah, c'est magnifique. C'est magnifique. On ne peut pas refuser ça. Donc, c'était lancé. Avec un... Et en plus, l'autre facteur que j'ai trouvé vraiment intéressant, ça va à l'encontre de ce qui se passe actuellement. Je préfère les petits labos.
Les petites unités.
Ah, ça, on reviendra peut-être dans le troisième point
sur l'évolution. À dimension humaine.
Voilà, sur l'évolution de la science. Oui.
Voilà.